Alors j'ai à cœur de parler aujourd'hui dans parcourir un peu le livre de Néhémie avec vous. Néhémie était un homme qui a été utilisé par Dieu pour reconstruire la muraille de Jérusalem. D'un autre côté, il y avait Esdras qui a été utilisé par Dieu pour reconstruire le temple qui avait été détruit, le temple de Salomon. Et dans Néhémie, on trouve que son cœur était brisé parce que la muraille de Jérusalem était détruite, parce que la muraille était associée à Jérusalem. Quand on parlait de la muraille, on parlait de Jérusalem et on parlait aussi du temple par conséquent. Pour lui, le fait de savoir, alors qu'il était en déportation, de savoir que Jérusalem, la ville de Dieu, était détruite, c'était quelque chose d'insupportable. Et il a pleuré, il a souffert. Et ça doit être le cas dans nos vies, ça doit être le cas dans notre situation, que si le temple de Dieu, si la muraille de nos vies n'est pas en bon état, ça doit nous faire pleurer, ça doit nous faire rechercher à la construction ou la reconstruction. Et le Seigneur a permis que Néhémie puisse obtenir cette faveur de retourner à Jérusalem pour reconstruire la muraille. Et on se rend moins compte maintenant, dans les temps modernes, ce que représente une muraille. Mais les murailles autour des villes, ça protégeait la ville. C'est ça qui gardait de l'ennemi. L'ennemi avait beaucoup de difficultés à attaquer la ville s'il y avait une forte muraille. Et spirituellement, on a besoin d'être entouré par une muraille. Dans Zacharie, il est question d'une muraille de feu qui est autour de Jérusalem. C'est celle-là qui nous est destinée maintenant, muraille du feu du Saint-Esprit qui nous protège. Mais en tout cas, il faut une muraille. Les enfants qui sont élevés sans correction, sans enseignement, sans cadre, sont des enfants qui sont détruits parce qu'on laisse la muraille en mauvais état et ils n'ont pas de protection. Toutes les influences peuvent rentrer. Et quand on enseigne que on ne doit pas corriger les enfants, eh bien, on est en train d'enseigner quelque chose de criminel parce que ces enfants seront perturbés toute leur vie, à moins d'un miracle, s'ils n'ont pas de muraille. Si votre enfant veut traverser, je sais pas, la route alors qu'il y a des voitures, vous allez le saisir, n'est-ce pas? Et vous allez lui dire, non, tu peux pas faire ça. On va pas dire, mais il faut le laisser, il faut lui laisser expérimenter. On va le saisir. Et quand on voit qu'il va vers quelque chose de mal, on doit le saisir aussi et lui dire « Non, tu ne peux pas faire ça. » Et c'est ça qui constitue une force, une solidité qui lui permet d'affronter la vie. Mais en tout cas, spirituellement, il faut des murailles, il faut un cadre, il faut une protection. Et on voit que dès lors que il est question de reconstruction, il est question d'ennemis qui viennent. Et la stratégie de l'ennemi du temps de Néhémie et du temps d'Esdras, c'est la même stratégie utilisée aujourd'hui. Il n'y a pas d'évolution du tout. Il y a une évolution du l'endroit, le type de situation, mais les attaques de l'ennemi sont les mêmes. Et on va voir ça ensemble. Et ça commence dans le chapitre 3 de Néhémie. Alors Néhémie, vous aurez peut-être un peu de mal à trouver, mais c'est juste après Esdras. C'est, alors comme disait quelqu'un, c'est entre la Genèse et les cartes. Mais pour être plus précis, c'est juste avant Esther. C'est avant Job. Donc vous prenez les psaumes, un livre avant les psaumes, c'est Job. Et ensuite Esther, si on recule en arrière, Esdras et Néhémie. Ça doit être ça, je me suis peut-être trompé dans l'homme, mais vous trouvez par vous-même. Et au chapitre 3, il est dit, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méal jusqu'à la tour de Hanané. Là, il n'est pas question d'ennemis pour l'instant, mais il y a quelque chose qui est troublant ici. On va le voir après. Et vous voyez quand même que il est en train de construire, de reconstruire la porte des brebis. Et la porte des brebis est mentionnée dans le Nouveau Testament. C'est là où se trouve cet homme dans Jean chapitre 5 qui est paralytique, n'est-ce pas, qui est près de la, qui est à la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda se trouve à la porte des brebis. Et il est paralysé, il est allongé. C'est un paralytique. Il y a quelque chose ici qui va, on va voir, est troublé, comme j'ai dit. Quelque chose qui va créer une paralysie. On va le voir plus tard. Parce que ça n'apparaît pas directement ici. Mais je suis frappé de voir que dans, que c'est là le premier, la première chose qui a été réparée. C'est la porte des brebis. Et à la, le Seigneur veut réparer ce qui est paralytique. C'est là où était cet homme allongé depuis tant d'années que Jésus est allé voir. Et vous savez que Jésus est la porte des brebis. Vous lisez dans Jean chapitre 10 qu'il est le bon berger, que les brebis reconnaissent sa voix et elles le suivent. Il est là pour guérir ce qui est paralysé, ce qui vous empêche de marcher. Il a pu dire à ce paralytique, lève-toi et prends ton lit et marche. Et il y avait quelque chose dans cet homme qui savait que si Jésus disait ça, alors il pouvait se lever. Et il s'est levé, il a pris son lit. Et il a marché. C'était un jour de sabbat. Un jour de sabbat aussi, un homme paralysé ou estropié, dans le début des actes, actes chapitre 3, était placé à la porte dite la belle porte du temple, tout près de la porte des brebis. Et là aussi, cet homme était placé là. Et vous savez que Pierre et Jean allaient au temple, encore une fois, le jour du sabbat. Et on amenait cet homme tous les jours pour qu'il puisse faire demander l'aumône. Donc le jour du sabbat, c'était le jour où il travaillait le plus, parce que c'était le jour où c'était plus rentable. Mais on le déposait là. Et Pierre et Jean vont dans le temple et ils s'arrêtent pour le regarder, pour le fixer. Ils avaient besoin, que cet homme avait besoin qu'on ne soit pas indifférent à son égard. Il avait besoin que quelque chose se passe. Et Pierre, bien sûr c'est Pierre qui parle en premier, mais c'était le Pierre nouveau. Parce que c'est acte chapitre 3 et acte chapitre 2, c'est la venue du Saint-Esprit. Et donc Pierre lui dit, regarde-nous. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et c'est là où l'Esprit de Dieu, quand il prononça sur nos vies, c'est là où le Seigneur est en train de faire la restauration de notre muraille. Parce que dans nos vies, on est paralysé. Dans nos vies spirituelles, très souvent, nous en Occident, on est paralysé par tout un tas de choses, par les compromis, par la vie facile, la vie moderne, par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et on a besoin que la muraille soit réparée, que celui qui est la porte des brebis puisse dire « Lève-toi et marche ». Lève-toi, prends ton lit et marche. Et Jésus, il est cette porte des brebis. Il est pour nous aussi. Vous savez que pour arriver à Jérusalem, la route qui amène juste à la porte des brebis, par le nord, c'est la route qui vient de Lyd. On en reparlera aussi après cette ville. Et à Lyd, quand Paul s'est trouvé dans cette ville, il y avait un homme qui s'appelait Aîné, qui était paralysé de naissance, ou estropié de naissance. Et là aussi, il a été guéri. Cette route entre Lyd et Jérusalem passe par la porte des brebis. Donc c'est merveilleux de savoir que le Seigneur répare. Le Seigneur répare ce qui ne va pas, afin qu'on puisse marcher. Il répare la muraille là où il y a des brèches, là où il y a des entrées de l'ennemi, là où il y a quelque chose qui nous rend paralysés. Il restaure. Ce Éliashib, son nom veut dire Dieu restaure. Très beau nom, mais il y a un problème avec cet homme. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit Jésus qui restaure et que ce ne soit pas un homme, un dirigeant qui avait une place importante. C'est un souverain sacrificateur. Si c'est l'Église, si c'est les anciens ou un pasteur, quelqu'un qui répare votre vie, ça peut paraître très beau en disant c'est un grand pasteur. Vous pouvez aller dans certaines églises où il y a des professionnels de la guérison, des gens dont on dit que s'ils imposent les mains, vous serez guéris. S'ils imposent les mains, vous serez bénis. Et ça paraît merveilleux, n'est-ce pas? Les gens reviennent en disant, j'ai reçu une bénédiction extraordinaire. Mais ce n'était pas Jésus. Et là, on voit que tout paraît merveilleux. Avec Éliashib, il y a un gros problème qui se passe justement dans la reconstruction de la porte des brebis. L'ennemi s'infiltrait dans cette situation, mais on va voir que l'ennemi aussi apparaît à plusieurs endroits. Au chapitre 4, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité, et il se moqua des Juifs. Donc la première attaque visible, c'est de créer la colère de l'ennemi et la moquerie. Et vous savez que la moquerie, c'est souvent utilisé quand on n'a pas d'argument pour dénigrer ou pour détruire ce que quelqu'un propose, on se moque. Et c'est ce qui est souvent le cas, n'est-ce pas, dans la persécution. on se moque. Et en France, on se moque. On dit que c'est de l'obscurantisme. Les médias s'empressent à présenter les choses de la vie chrétienne comme étant de l'obscurantisme, de sorte à ce que les gens qui écoutent disent « Oh, c'est ridicule, il y a des gens qui croient ça encore aujourd'hui. » Oui, il y a des gens qui croient encore qu'il y a un Dieu créateur. Et on devrait se poser la question de dire comment ça se fait qu'au XXIe siècle, il y a des gens qui croient que la matière peut apparaître du néant. Mais l'arme de l'ennemi, c'est se moquer. C'est très difficile pour les enfants qui connaissent le Seigneur de dire à l'école, même dans la grande France où on n'est pas persécuté, c'est difficile de dire à l'école, moi je crois en Jésus. À la rigueur, on dirait, moi je crois en Dieu. Comme ça, les musulmans, les juifs, ça fait plus de monde, d'accord? Mais de dire, je crois en Jésus, on sait que ça va entraîner la moquerie. En tout cas, l'ennemi a commencé par ça, et il y a un certain Tobia, au verset 3, qui est ammonite. Bon, ça passe comme un détail, mais c'est un ammonite. Et les ammonites étaient les descendants de Lot. Ben Ami était fils de Lot, fils de l'inceste et de l'alcoolisme, puisque les filles l'ont fait boire pour commettre des actes incestueux. Il avait interdit de séjour en Israël parce que les Ammonites, parce que ils avaient refusé d'aider le peuple d'Israël dont ils avaient besoin. Mais Tobia l'Ammonite était là quand ils ont appris cette nouvelle. Et il dit qu'il bâtisse seulement si un renard s'élance et renversera la muraille de pierre. Et voilà, quand on a quelqu'un qui est totalement détruit spirituellement, et que les chrétiens disent « Le Seigneur peut intervenir et changer sa vie », les gens se moquent en disant « Ça durera un jour ou deux et il retombera ». Mais non, la puissance de Dieu est réelle. L'œuvre de Jésus-Christ, la porte des brebis, celui qui dit aux paralytiques « Lève-toi et marche », c'est radical. Si le Seigneur vous a délivré de l'alcoolisme, les gens vont vous dire « Oh, il a déjà essayé plein de fois avant » et il est retombé. Les gens vont se moquer. Mais si vous savez que c'est Jésus qui vous a délivré, alors vous savez que c'est, vous avez pu vous lever et vous pouvez marcher, parce que c'est l'œuvre de Jésus. La deuxième tentative, c'est chapitre 4, verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ils ont vu que c'était plus sérieux que ce qu'ils ont pensé. Ils ont vu que ça avançait. Et ils ont commencé à se liguer pour attaquer. Et on va commencer à vous attaquer en justice éventuellement. On voit ça dans l'Église persécutée. On va attaquer, on va diffamer. On va faire un procès contre ces gens-là pour qu'ils se découragent. Et quand vous voulez faire ce qui est bien, ce qui est selon Dieu, vous voulez que les gens qui sont paralysés puissent se lever et marcher, je parle de paralysie spirituelle, on risque d'organiser des procès contre vous. C'était le cas, en tout cas ici, on les a attaqués. au chapitre 5, vous avez une troisième stratégie. Un troisième, disons, empêchement ou sujet de retard dans le processus de construction. C'est le peuple des Juifs qui commence à se lasser, qui commence à se plaindre. Et la plainte, c'est un ennemi de l'œuvre de Dieu. Parce que quand les chrétiens se plaignent, ils sont pas en train de louer le Seigneur. Ils sont en train de regarder leur situation, leur confort personnel. Et ça, c'est un obstacle pour la vie spirituelle. Je ne sais pas si vous vous plaignez, mais la prochaine fois que vous plaignez, arrêtez-vous tout de suite et réfléchissez ce que ça représente. La plainte, c'est quelque chose que Dieu déteste. Le peuple d'Israël dans le désert a irrité le Seigneur par la plainte. Dans Lamentation de Jérémie, il nous est dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et c'est ça, la plainte, la seule plainte qui est bonne, c'est quand on se plaint de ses propres péchés, quand on reconnaît qu'on est pécheur. Mais en tout cas, il y a eu la plainte. Et Néhémie est intervenu pour régler. Ça s'est réglé rapidement. Néhémie a réglé ça. Et il a dit, maintenant c'est terminé. Il n'y a plus de plainte. La prochaine, c'est au chapitre 6, la prochaine stratégie. Chapitre 6, verset 2. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens. Ayant ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono, ils avaient médité de me faire du mal. Une stratégie terrible, c'est celle qui dit, viens, on va discuter. On est amis après tout, on n'est pas ennemis. On va discuter. Quand Esdras a commencé à construire le temple pour sa part, les ennemis de Dieu sont venus lui dire, on vient pour t'aider à construire, on va t'aider. Israël, dans la construction du temple, c'était hors de question. Et pour Néhémie, c'était la même chose. Il n'était pas question du tout de discuter, de négocier, de voir s'il y avait un arrangement possible. Est-ce que nous en savons avec l'ennemi quelquefois? Des compromis, des choses de l'ordre de la discussion en disant peut-être on peut faire un arrangement. En tout cas, c'était pas le cas pour Néhémie. Et ce qui est frappant, c'est que ils lui ont dit, ayant une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono, et il semblerait que ce soit Lide, donc au nord-ouest de Jérusalem, précisément là où Aîné a été guéri de son invalidité. Mais Néhémie n'est pas tombé dans le piège. Et quand le mal essaie de négocier, essaie de se mêler. Vous savez, il y a eu ce courant que j'ai connu ça beaucoup dans les années 80, où ça s'est développé abondamment, courant œcuménique, où il fallait absolument qu'il y ait une sorte de dialogue entre les religions. On voulait absolument que les catholiques soient en prière avec les protestants. On disait que c'était l'accomplissement de Jean chapitre 17. Et moi, ce que je trouvais, c'était que avant, il y avait les catholiques et les protestants. Maintenant, il y avait les catholiques œcuméniques, les catholiques non œcuméniques, les protestants œcuméniques, les protestants non œcuméniques. Je trouvais que ça faisait plutôt de la division que de l'unité. Mais en tout cas, Quelquefois, on pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer spirituellement. Mais Néhémie ne voulait que des gens qui étaient là pour construire la muraille. Est-ce que c'est ceux-là avec lesquels on s'associe? Seulement ceux qui sont là pour construire, pour faire l'œuvre de Dieu. Pas ceux qui sont là pour influencer la doctrine, pour nous faire réfléchir en disant « Oui, mais c'est pas si extrême. Faut pas avoir des positions si extrêmes. » Vous savez que, malheureusement, beaucoup de jeunes chrétiens d'église qui ont fait les instituts bibliques sont une très bonne chose si c'est un très bon institut biblique. Mais beaucoup sont allés avec des convictions spirituelles très fortes qu'ils ont acquises dans leur église. Et en côtoyant des autres étudiants qui venaient de différents horizons, ils ont commencé à avoir des positions plus souples, n'est-ce pas? Et finalement, certains ont baissé spirituellement, alors qu'ils étaient allés pour se fortifier. Attention à ça. On doit vraiment savoir ce que le Seigneur nous a dit. Et si le Seigneur nous a dit « Lève-toi et marche », vous marchez à la suite du Seigneur seulement. Toujours être à la porte des brebis et pas loin pour négocier, pour voir comment on pourrait trouver un arrangement. La cinquième attaque ou stratégie, c'est au verset 6 du chapitre 6. Verset 5. Sanballat m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il était écrit « Le bruit se répand parmi les nations », etc. Des choses qui étaient fausses. Le bruit se répand. On dit des choses fausses sur vous. On calomnie, on vous diffame. On répand des rumeurs. Et c'est une stratégie de l'ennemi actuellement, qui est très difficile à supporter. C'est très difficile de savoir qu'on dit des choses fausses sur vous. On a envie de se défendre. On a envie de dire, c'est pas la vérité. Mais vous savez que Jésus, on a dit des choses fausses. Il avait le pouvoir à tout moment de anéantir ceux qui... Mais il a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais il aime ceux qui les calomnient. Il aime ceux qui sont à l'origine de la médisance, de toutes ces choses, ces rumeurs qui sont répandues. Il les aime. Et nous aussi, on doit les aimer, mais on ne doit pas être impressionné. C'est normal qu'on dise du mal de nous. C'est normal qu'on répande des choses fausses. Et quelquefois, dans les milieux évangéliques, on veut défendre le point de vue, mais Jésus souvent s'est tu. Et il n'a pas cherché à se justifier, il n'a pas essayé de corriger. Mais on voit que ça devient de plus en plus subtil. Au début, c'était la moquerie. Au début, c'était la colère. Maintenant, ça devient de plus en plus subtil. Des choses qui font beaucoup de dégâts. Au verset, toujours dans le chapitre 6, au verset, fin du verset 7, « Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis, donc c'est là avec les calomnies, n'est pas vrai, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. » Et ils se disaient, ils perdront courage. et l'œuvre ne se fera pas. Un peu plus bas, et ça guette tous les chrétiens. Au verset 10, ça, je me rendis chez Shemaja, fils de Delaïa, fils de Métabel. Il s'était enfermé et dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Il se présente comme un grand défenseur de Néhémie. Il veut protéger Néhémie et lui dit, on va aller dans le temple, on va fermer les portes. Il savait très bien que si Néhémie faisait ça, il faisait une faute grave dans la loi juive, parce qu'il n'était pas sacrificateur, il n'avait pas le droit d'aller dans certaines parties du temple. Et donc, on voulait créer la faute. Ça guette les chrétiens. Quand un chrétien marche avec Dieu, il y a des gens qui essayent de le faire tomber dans le péché. C'est très classique. Pour que tout le témoignage, toute l'œuvre de Dieu dans sa vie soit gâchée. Pour que l'Église soit secouée. Et combien de gens se réjouissent quand un chrétien tombe. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et que c'est tous les jours qu'on a besoin d'entendre Jésus qui dit « Lève-toi et marche » et qui nous donne la force de marcher. Parce que si on tombe, on dira « Voilà celui qui était guéri de la paralysie. Regardez où il est par terre, à nouveau. » Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. À la fin du chapitre 6, au verset 19, il disait même du bien de lui en ma présence et il rapportait mes paroles. Tobia envoyait des lettres pour m'effrayer. Mais ici, la stratégie, c'est de dire du bien d'un ennemi. C'est-à-dire, ils essayaient d'influencer Néhémie en disant, celui-là, c'est quelqu'un de bien. Tu peux avoir confiance en lui. Et alors que c'était un des ennemis de l'Éternel, et un des ennemis de l'Éternel, c'était ce Tobia, l'ammonite, qui détestait Néhémie, qui voulait anéantir l'œuvre. Et quand Néhémie s'est absenté, on l'a donné une chambre. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est précisément dans la maison d'Éliashib qu'on a mentionné tout au départ. Mais en tout cas, Éliashib était lié par le lien familial avec ce Tobia. Il y avait un lien familial et il y avait une affection. Et quand Néhémie n'était pas là, on a donné une place pour Tobia dans la maison. Et ça, c'est l'œuvre la plus subtile de l'ennemi. Quand il essaye de rentrer dans la maison de Dieu, dans nos maisons, il y a un vrai danger. Et c'est parce que cet Éliashib qui dit par son nom l'Éternel restaure. Mais en tout cas, Éliashib, il a restauré en apparence, mais il a contribué à la tentative de destruction de l'œuvre de Dieu. Parce que il a donné une place dans sa maison, à quelqu'un qui était ennemi de Dieu. Est-ce que dans nos vies, il y a quelque chose de cet ordre-là? Ou le message que l'on porte c'est Dieu restaure. Mais on laisse celui qui fait la destruction, on le laisse dans notre maison. On le laisse rentrer dans nos vies. On le laisse rentrer dans nos maisons, dans nos décisions, dans nos activités, dans nos loisirs. On proclame que Dieu restaure, mais on a le destructeur dans nos vies. C'est l'œuvre la plus subtile et l'œuvre qui réussit le mieux, l'œuvre de destruction, parce que ça vient de l'intérieur. On a besoin que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde. Et Néhémie est resté fidèle et il est resté ferme quand il est rentré. Et qu'il a appris qu'il y avait une place pour Tobia. Il a pris les affaires de Tobia, il a tout jeté par la fenêtre et il aurait pris Tobia pour jeter par la fenêtre s'il avait pu. Mais il s'en est débarrassé. Vous reconnaissez l'esprit qui animait Néhémie à ce moment-là, dans l'esprit qui animait Jésus-Christ dans le temple, lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple. La même chose, renversée. On dit, Jésus s'est irrité, Jésus s'est mis en colère, mais c'est le péché qu'il ne supportait pas. Nous, on se met en colère contre les gens, pas contre ce qu'ils font. Et c'est pour ça que notre colère est coupable. Dieu ne se met pas en colère sur les gens. Jésus ne se mettait pas en colère sur les gens. Il se mettait en colère sur ce qu'il faisait. Et la dissociation entre ce qu'on est et ce qu'on fait chez le Seigneur Jésus, elle est très claire. Nous, on fait une fusion, une confusion. On se met en colère contre les gens. Mais le Seigneur Jésus, en tout cas, a chassé les vendeurs du temple, exactement comme Néhémie a chassé ce qui était rentré. Parce que si on laisse rentrer le péché, si on laisse rentrer le destructeur, on sera paralytique. Il y a quelque chose qui va dysfonctionner dans notre marche avec Dieu. Et finalement, on sera allongé par terre dans l'incapacité de marcher. Alors, est-ce que notre cœur ce matin, notre attitude, notre décision, c'est de dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux entendre ta voix qui me dit, lève-toi et marche. Je veux marcher. Et je veux garder tes commandements. Je veux obéir. Quoi que l'ennemi essaie de faire contre moi, je veux avancer. Si c'est le cas, Dieu vous entend. Et Dieu va vous utiliser pour la construction de l'Église avec un grand E, mais aussi de l'Église locale. Parce que si vous êtes de l'Église universelle, vous êtes de l'Église locale. Que Dieu nous aide et nous garde. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour l'œuvre de Dieu dans la vie de Néhémie. Seigneur, tu es merveilleux parce que c'est toi qui es venu à la porte des brebis pour que ceux qui entendent ta voix puissent te suivre. Seigneur, pour que les paralytiques, les gens estropiés qui ont du mal à marcher, puissent marcher. Et Seigneur, c'est toi qui donnes la force. Et on sait que l'ennemi est là, que l'ennemi veut nous détruire, que l'ennemi veut nous faire tomber, que l'ennemi veut annuler l'œuvre de Dieu. Et Seigneur, tu nous protèges. Donne-nous une vigilance. On lit que Néhémie, quand il a vu qu'il était attaqué de toutes parts, il a armé c'est les hommes qui travaillaient avec lui. En même temps qu'eux, ils travaillaient, ils étaient armés. Et Seigneur, tu nous donnes les armes de l'esprit pour nous protéger, pour nous défendre, pour avancer spirituellement.